ポカピン、ポカピン、ポカピン。
J'ai le ventre congolais à présent avec Jean-Claude Kimba, Kamanga.
Bonsoir, opération conjointe par des terres néerlandaises au nord Kivu. Quel bilan une semaine après l'arrivée des troupes rwandaises invitées par le gouvernement congolais et quelle perspective pour le retour de la paix au Kivu? C'est le sujet de cette émission Dialogue entre Congolais. Nous accueillons trois invités pour en parler. Julien Kamoutou, il est gouverneur du Nord Kivu. Jacques Joly, sénateur NLC, vice-président de la Commission Défense et Sécurité du Sénat. Et François Grignon, directeur Afrique de l'ONG International 3 du Kivu, spécialisé dans la prévention et la résolution des conflits. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Opération conjointe FARDC armée rwandaise en Nord Kivu, quel bilan une semaine après l'arrivée des troupes rwandaises invitées par le gouvernement congolais? Sachez que trois localités, jadis occupées par les FDLR, sont passées ce mercredi sous contrôle des FARDC. C'est précisément dans la partie sud du territoire de Massissi. Cela porte à environ 10 localités désormais placées sous contrôle des FARDC après leur abandon par les rebelles hutu-rwandais. C'est le résultat des opérations de traque des FDLR lancées depuis une semaine par la coalition FARDC armée rwandaise au Nord Kivu. Les sources militaires FARDC avancent un bilan de 9 morts du côté FDLR dans ces opérations. Détail avec notre confrère Bernard Denyangu.
C'est depuis hier soir que les combattants FDLR ont quitté sans affrontement les localités de Katoï, Kibua et Ruzougou, environ 60 km au nord-ouest de Goma, en territoire de Massissi, affirment les porte-parole des commandements militaires des opérations Nord Kivu. Une retraite des FDLR qui intervient après celle de Bumiatenge et Kassou-Bamoussingi en territoire de Lubero depuis vendredi dernier. À présent, toutes ces localités sont réoccupées par les FARDC. Pour l'administrateur de Lubero, quelques dizaines de familles habitantes des Kassou et Bumiatenge qui ont fui leur village sont arrivées samedi dernier à Lubero Centre. Ils craignent, selon lui, une contre-attaque des FDLR qu'ils pensent se réorganiser depuis leur lieu de retraite en brousse. Pour le porte-parole des opérations, quelques accrochages entre les forces de coalition et les FDLR ont déjà eu lieu dans ces opérations à Lubero, bilan 9 morts du côté des FDLR. Rappelons que ces opérations ont commencé le mardi de la semaine passée dans le territoire de Rutshuru, où tout l'axe Kiwanja-Ishasha est passé sous contrôle des FARDC. Goma, Bernard Benyangi, Radio Okapi.
Réaction FDLR d'après leur président Ignace Mourona-Chaka, cité par l'AFP au téléphone. Des petits accrochages ont eu lieu depuis deux jours dans beaucoup de localités de la province du Nord Kivu, mais il n'y a pas encore eu d'affrontement comme tel entre nos troupes et celles de cette coalition. Il n'y a pas eu de dégâts de notre côté, c'est encore Ignace Mourona-Chaka qui le dit, et pour l'autre côté, je n'en sais rien. Le chef rebelle a aussi nié que certains de ses combattants aient commencé à se rendre. Il n'est pas exclu, a-t-il dit, que certains parmi les dizaines de milliers de réfugiés civils hutu-rwandais aient pu se rendre par peur de guerre. Monsieur le gouverneur, Julien Kamoutou, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, qu'est-ce que vous pensez de ce bilan avancé d'abord par la coalition, mais aussi la réplique des FDLR à travers Ignace Mourona-Chaka?
Oui, merci beaucoup. Ce que j'ai fait sur le terrain, c'est que beaucoup de localités, comme le reporter de la radio Kapil a dit, sont maintenant contrôlées par les FARDC. Si on prend par exemple un territoire de Rutshuru sur l'axe nord du territoire, en quittant Kiwanja vers Ishasha, toute cette partie est totalement contrôlée par les FARDC. Mais également dans les territoires de Lubero, à l'ouest de ce territoire, dans une localité qu'on appelle Katsuo, dans une autre qu'on appelle Dingi, Bunyatenge, Muhanga, toutes ces localités sont désormais contrôlées par les FARDC, parce que certains FDLR y avaient déjà installé même leur administration en faisant fuir tous les chefs locaux. Également dans les territoires de Massissi, il y a la localité de Katoï, de Kibua, et des Ruzougou qui sont également sous contrôle des FARDC. Donc je crois que l'opération est en train de se dérouler normalement. ces derniers temps, on est en train de voir effectivement certains FDLR rejoindre la voie de la raison. Il y a 4 jours, une délégation s'est rendue à Kigali dans une mission exploratoire pour voir si les conditions de retour sont bonnes, de manière à ce qu'ils puissent dire aux autres que le temps est venu pour qu'ils puissent rentrer au Rwanda. Donc je crois que ça se passe très très bien.
Voilà, donc l'opération se passe très bien. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à cela, Jacques Joly, sénateur MLC, on l'a déjà dit. Bonsoir.
Bonsoir, je suis très heureux que le gouverneur puisse aujourd'hui récupérer les villages où qu'occupe le FDLR, parce que pendant très longtemps, lors de nos débats, il a toujours considéré le FDLR comme un moindre mal. Donc aujourd'hui, c'est une bonne chose qu'il s'y soit converti. Cela étant, nous, d'abord, nous voulons nous féliciter que, finalement, la voie de la raison, la voie de la paix, de la négociation, est prévalue. Mais nous déplorons que nous risquons de rater encore une opportunité d'instaurer une vraie paix, une paix sincère avec tous nos voisins, à commencer par le Rwanda. Pourquoi ? Parce que les opérations, je ne vais pas revenir sur ces bilans, je crois que vous avez dit, en une semaine, pour une opération de 15 jours, on a tué 9 FDLR. Ils sont 6 000, vous pouvez faire les calculs. Alors, en 15 jours, on va en tuer 18 et peut-être 4. Et notre couac, aujourd'hui, on nous a dit que les gens devaient se retrouver à Rumangabu. Personne ne s'est présenté. On nous a encore dit que Kunda Batware est arrêté. Nous ne savons pas s'il est arrêté, si en séance surveillée. Mais le dernier message, on nous propose même une solution politique pour le cas de Kunda Batware. Pour dire, donc, il y a un flou parce que d'abord, il y a eu violation, n'est-ce pas, de l'esprit de la lettre de notre Constitution. Comment voulez-vous, pour un accord aussi important, de la présence de plus ou moins 9 à 12 000 hommes étrangers sur notre territoire, que le président de l'Assemblée nationale n'en soit pas informé, que le Parlement soit totalement tenu à l'écart, que cet accord soit signé par des personnes dont l'identité est douteuse, parce que nous ne savons pas qui c'est l'application de l'accord du 5 décembre qui nous parlait des observateurs, donc on ne vient pas observer avec 12 000 hommes, ou si nous sommes dans une opération militaire conjointe d'entre deux États qui ont signé un traité qui doit nécessairement, soit si c'est un traité de paix et de relations en matière de règlement des conflits, qui doit absolument
passer par le Parlement.
Donc, je trouve que finalement, bien que nous voulons la paix, il faut qu'une paix soit sincère pour garantir et le Rwanda, et les Rwandais, et les Congolais. Parce que nous avons déjà fait, n'est-ce pas, l'expérience avec le mixage.
Oui,
lorsque ça va échouer, les gens vont nier. Et finalement, nous allons rentrer à la case.
On en parlera parce que on va voir un peu finalement les perspectives justement d'avenir. Mais là, évidemment, vous reposez encore la question de savoir pourquoi d'autres institutions, notamment la vôtre, le Parlement n'était pas au courant. Mais en bref, par rapport à l'opération, est-ce que vous êtes quand même d'accord que jusque-là ça se déroule bien au regard du bilan?
Mais pour évaluer, il faut d'abord avoir un cadre d'évaluation. Quels sont les termes de référence? Est-ce que c'est une mission d'observation? Est-ce que c'est une mission de combat? Si c'est une mission de combat pour 6 000 hommes, je vous dis en une semaine, on en a, n'est-ce pas, tué, excusez-moi les termes, 9 000.
Selon les sources militaires.
Nulle part il y a eu affrontement. Les éléments de FDLR qui ont préparé là ont abandonné leur position et ont pénétré beaucoup plus à l'intérieur du Congo.
Donc vous avez du mal à évaluer, si je peux dire, cette opération maintenant.
Nous sommes dans le flou. Sommes dans le flou et nous avons peur que cette opération soit encore une fois une mascarade qui risque de nous éloigner. Le vrai accord qui aurait dû être signé à Nairobi qu'on a escamoté pour des raisons que nous ignorons.
Merci. François Grignon, bonsoir.
Bonsoir.
Ouais, je rappelle le directeur Afrique de International Crisis Group. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau, du moins par rapport à l'opération qui est en cours une semaine après?
Écoutez, je crois qu'il est un peu tôt pour tirer, faire une évaluation ou tirer un bilan. On sait finalement peu de choses effectivement sur cette opération. Pour compléter les informations qui nous ont été données par Monsieur le Gouverneur, j'aurais quand même ajouté que un groupe Allemagne a rapporté l'assassinat de 36 civils par un groupe FDLR dans la zone de Wadi-Kadé. Difficile de dire s'il était en liaison directe avec les opérations, mais disons que on a vu les dégâts catastrophiques de l'opération conjointe contre la LRA dans l'Ouélé, et donc on peut être quand même un petit peu soucieux des mêmes, si vous voulez, conséquences assez catastrophiques sur les populations civiles dans le Nord Kivu qui ont déjà beaucoup souffert.
Vous l'avez dit dans votre communiqué.
Élément, en ce qui concerne, juste un élément d'information, en ce qui concerne la visite du groupe qui est allé à Kigali, ce ne sont pas des faux cas, ce ne sont pas le groupe de combattants, je dirais, les plus durs, qui opèrent en Masisi et Rutshuru. C'est un groupe qui était entré dans une phase de dialogue depuis déjà plusieurs mois, et qui, effectivement, je dirais, était beaucoup plus conciliant et était opéré plutôt dans la zone de l'Ouburo. Donc, il ne faut pas non plus, si vous voulez, se satisfaire trop vite de cette visite à Kigali comme un signe avant-coureur d'un désarmement volontaire. Franchement, on n'en est pas là. Le groupe qui est allé ne représente pas la majorité des combattants du Masisi et de Rutshuri, du Rutshuru, pardon.
Vous voulez parler donc du groupe de l'affaire. Oui, François Vernon. On a un petit problème avec la ligne, j'espère que ça va aller. Oui, vous voulez parler des délégués Roud RPR, François Vernon?
Oui, tout à fait.
Oui. Et donc, vous dites que, déjà, vous dites que vous êtes inquiet, ça rejoint un peu le communiqué que votre ONG a publié, justement, les inquiétudes sur l'opération en cours en Nord-Kivu.
Oui, on a plusieurs attitudes. Une des attitudes également, c'est que cette opération se passe sans accompagnement, sans témoin, dans un, je dirais, secret le plus total. Or, 6000 hommes à désarmer, ça ne va pas se faire, si vous voulez, sans un minimum de communication avec eux, de sensibilisation. Ce n'est pas des opérations militaires, même intensives, sur un territoire qui va du Nord Katanga à Wadi-Kadé, qu'on va pouvoir les capturer en quelques semaines ou en quelques mois. Je crois que militairement, c'est une opération qui me paraît tout à fait infaisable. Donc l'opération militaire peut effectuer une pression sur les éléments les plus durs et convaincre les autres de se porter volontaires pour le désarmement. Mais encore faut-il qu'il y ait l'accompagnement. Qui va les accueillir? La MONUC n'est pas impliquée. C'est elle qui est mandatée et qui a les moyens de les accueillir pour les désarmer. Et donc, il est quand même important qu'il y ait une structure d'accompagnement favorable au désarmement qui permette le rapatriement rapide de ces combattants vers le Rwanda, et qui aujourd'hui n'est pas en place. Donc, il y a tout un. Notre inquiétude est également liée à tout un manque de préparation, de coordination, de travail en commun avec les différents partenaires nationaux et internationaux vis-à-vis de cette opération qui pourrait avoir des effets extrêmement, je dirais, brutaux sur les populations civiles congolaises.
Oui, on va permettre justement au gouverneur Julien Paluku d'y répondre. Mais d'abord, la MONUC qui vient de se mettre d'accord avec le gouvernement congolais sur les modalités du soutien qu'elle doit apporter dans les opérations d'intégration des troupes ainsi que la traque FDLR. Déclaration ce mercredi à Goma du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à RDC après un séjour de 4 jours au Nord Kivu. M. Landos a indiqué que l'apport de la MONUC sera circonscrit dans 3 aspects, notamment la protection des civils pendant les opérations ainsi que l'appui logistique dans l'opération d'intégration. On l'écoute.
Nous allons appuyer les efforts de planification de ces opérations. Nous entrons dans des discussions détaillées maintenant. Nous allons affecter des officiers de MONUC pour qu'on puisse poursuivre ces discussions et surtout la planification des opérations. Deuxième chose, c'est les opérations envisagées contre le FDLR. Ceci dit, nous restons ouverts à tous ceux qui veulent rentrer à travers un désarmement et un repartiment. Ils doivent se rendre, ils doivent déposer leurs armes et on peut les aider à rentrer en sécurité et avec dignité.
Voilà, monsieur le gouverneur, on a suivi à Landos, vous venez de le suivre aussi. Et là, vous vous êtes mis d'accord, vous comme membre du gouvernement congolais, avec la MONUC au niveau des modalités du soutien que la MONUC doit apporter dans les opérations d'intégration des troupes. Mais est-ce que ça veut dire que la MONUC s'implique aussi dans l'opération en cours?
Oui, naturellement, elle doit s'impliquer au terme du mandat qui est... c'est le tien. Je crois que avant de répondre, je voudrais d'abord répondre à l'honorable sénateur Njoli qui a dit que je considérais toujours le FDLR comme un moindre mal. Je crois peut-être qu'il se trompe de gouverneur ou d'époque. J'ai toujours été de ceux-là qui considèrent que les FDLR constituent un problème véritable pour cette province, c'est qui viole ici et ici les biens des populations. Mais par rapport à la deuxième question, c'est que la MONUC, en fait, en termes de son mandat, doit aider à résoudre tous les problèmes sécuritaires qui se posent ici au nord Kivu. C'est la raison pour laquelle, bien que au départ, elle disait qu'elle n'avait pas été associée à la démarche, eh bien,
elle
va rétablir un plan de contingence.
Est-ce que c'est faux?
Pour devoir aider à la protection des populations, mais également à son appui logistique aux opérations contre les FDLR. Donc cela, pour nous, est considéré comme une très très bonne chose de la part des Nations Unies, parce que si c'était le contraire, tout le monde s'étonnerait de voir comment la MONUC assisterait passivement aux opérations sans apporter son appui.
Si vous la mettez à l'écart, elle ne peut pas d'elle-même s'impliquer, non?
Moi, je crois que au regard du mandat qui est le sien, il n'est même pas question de, de l'impliquer. Donc son mandat l'oblige à pouvoir travailler pour que le régime de la province. Chaque tour, aller rappeler à la MONUC le mandat qui lui a été donné par le Conseil de sécurité. Le mandat est là, on doit le lire correctement, et la MONUC doit l'appliquer. Donc je crois que c'est ça la lecture que nous devons avoir. C'est pas tout le temps que nous devons aller toquer à la porte de la MONUC pour dire vous venez nous aider, alors que la présence de la MONUC dans ce pays est justifiée par ce mandat, qui d'ailleurs, par la dernière résolution, est clair pour devoir aider à ce que les pays sortent du chaos, notamment en aidant à traquer toutes les forces qui déstabilisent la région.
Oui, mais qu'est-ce que vous répondez par rapport à ce que Jacques Joly a dit, et quelque part François Grignon aussi, qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui filtrent de cette opération? C'est quoi? C'est stratégique?
Moi, je crois que quand on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est très faux. Bien évidemment, les opérations militaires, on ne doit pas commencer à aller comme dans un agora, aller commencer à dire, bon voilà, demain nous allons commencer à traquer, demain nous allons faire ceci. Il y a un plan qui a été adopté par les deux gouvernements dans les communiqués conjoints du 5. Cela avait été révélé, je crois, au point 4 ou 5 de ces communiqués. Il était clairement dit que les deux gouvernements ont adopté un plan conjoint pour devoir traquer les FDLR. D'ailleurs, je faisais partie de cette rencontre, comme gouverneur du Nord Kivu, et je pense que cela suffisait. Et je ne pense pas qu'il fallait qu'on commence à promener les contenus de ce plan un peu partout pour dire à la phase 1, on fera ceci, à la phase 2, on fera cela. Mais ce qui est en train de se faire, c'est effectivement l'exécution de ce plan. Lorsqu'on dit par exemple que non, il y a 9 000, 12 000 hommes, c'est quand même très curieux qu'on apprenne et à partir de Kinshasa, on commence à avoir même les chiffres. Mais par ailleurs, sur le plan de l'analyse, je considère que si les gens commencent à comprendre qu'il y a 10 000, qu'il y a 5 000 hommes, je crois que c'est une très très bonne chose, parce que si on connaît le nombre de Rwandais qui sont entrés, eh bien, à la fin des opérations, on va devoir compter les personnes qui rentreront pour se rendre compte que tous sont rentrés.
Oui,
je crois qu'on doit être conséquent avec nous-mêmes lorsque nous citons des chiffres. C'est très important que lorsque nous les citons, nous devons être conscients que ce sont les vrais chiffres. Et à la fin des opérations, nous devons nous mettre à la barrière, commencer à compter 1 jusqu'à 10 000, 1
monsieur
jusqu'à
10 000
pour nous rassurer qu'ils sont rentrés.
Oui, monsieur le gouverneur, Julien Paloukou, l'opération, d'après les informations que nous avons, elle devrait durer 2 semaines. Vous pensez qu'au bout de... là, c'est une semaine qui vient d'être consommée. Vous pensez qu'au bout d'une autre semaine, comme l'a souligné Jacques Joly, vous aurez atteint les objectifs que vous êtes assignés?
Oui, en fait, en termes opérationnels, on ne raisonne pas mathématiquement ou statistiquement pour dire que comme en une semaine, on a tué 9, donc en 2 semaines, on aura tué 18. C'est pas un calcul mathématique. Je crois que l'objectif d'une opération est toujours limité dans le temps et dans l'espace. Si on peut donner 15 jours, c'est pour qu'à la fin de ces 15 jours, on puisse évaluer l'opération et savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et c'est l'évaluation qui va déterminer la suite du programme. Est-ce qu'il y aura des conditions d'une dizaine d'autres jours? Est-ce qu'on va dire qu'à la fin des 15 jours, on a atteint l'objectif? Parce qu'en fait, on doit se le dire. Si dans les 15 jours, on arrive à obtenir que le grand groupe puisse partir, comme c'est le cas, je vous l'ai dit, il y a une mission exploratoire qui vient du Rwanda. Il vient d'ailleurs de rentrer ces gens-là. Aujourd'hui,
Oui, vous l'avez déjà dit, c'est pas un groupe vraiment important, les combattants. Allez-y, M. Gouverneur.
Oui, ce que je crois, c'est que aujourd'hui, alors que les opérations ont lieu, nous sommes en train de les coupler avec une campagne de sensibilisation. Vous avez appris qu'il y a beaucoup de notables qui sont dans les massifs, d'ailleurs. La Barza intercommunautaire composée de toutes les communautés du Nord Kivu vient de Kermasisi. Aujourd'hui, elle vient de Rutshuru. C'est des gens qui sont en train de passer le message clair à l'ensemble des populations que l'heure est venue pour que les combattants rwandais, les FDLR, puissent rentrer.
Merci. Merci, M.
Gouverneur. Les soldats qui vont encore avoir des liens avec eux, ils risquent à s'exposer à cette rigueur qui, finalement, risque d'importer tout le monde.
Oui, mais sur le banner, on ne va pas monopoliser la parole, nous deux, parce qu'il y a deux autres invités. Peut-être très rapidement, nous avons une information, mais peut-être vous allez la confirmer. Il semble que le Rwanda a sollicité une prolongation de 60 jours. Confirmé?
Non, pour l'instant, on n'a pas encore de sollicitations par rapport à ça. Je ne suis pas le ministre de la Défense, ni le chef d'état-major général de l'armée de la RDC pour que je commence à parler des aspects trop techniques. Mais à mon sens, je n'ai pas encore, parce que je participe à beaucoup de réunions, je n'ai pas encore appris qu'il y ait une sollicitation éventuelle. Mais ce que je sais, c'est qu'à la
fin, très rapidement.
Ça ne va pas passer à l'évaluation, ça va être clair.
Oui, merci. Oui, c'est un tour, Jean-Joly.
Je me rends compte que ni moi, ni François Grignon, nous n'avons la chance d'avoir l'optimisme du gouverneur. Mais sur le plan politique, ce qu'il faut souligner, c'est que finalement le gouvernement actuel s'est caractérisé par le renoncement et l'incapacité à assurer par lui-même la protection de nos frontières, la sécurité de ses populations. On l'a vu, pour que les LRA quittent notre territoire, il a fallu qu'on fasse appel à une armée étrangère de l'Ouganda et on connaît les résultats. Pour faire partir le FDLR, le gouvernement se montre encore incapable et va prendre, en dehors de toutes les précautions juridiques et constitutionnelles, prendre langue avec le Rwanda, nous ne refusons pas, mais dans un cadre totalement flou et clandestin. Donc, il est donc malheureux que nous ne puissions pas développer un concept opérationnel propre, parce qu'on aurait compris que le Rwanda vienne comme observateur, comme on le dit. Il y a même un terme en anglais qui est utilisé, monitoring. Mais nous nous trouvons dans une opération militaire lourde. Le gouverneur parle de dire que nous avons donné des chiffres de 12 000. Mais on nous a dit que c'est 4 brigades. Et que pour le moment, il y a 5 à 6 000. Il y a possibilité de, n'est-ce pas, de monter en puissance.
Ce sont des observateurs.
Des observateurs. Donc, on passera de 10 à 12 000. Si nous nous hasardons sur ces chiffres, c'est justement à cause de l'opacité dans la gestion de ces dossiers, dans l'ambiguïté, tantôt monitoring, tantôt opération. Alors, voilà pourquoi nous disons qu'il aurait, n'est-ce pas, fallu un cadre clair de rapport entre nous et le Rwanda. C'est nous au Parlement qui avons demandé au gouvernement de restaurer d'abord les relations avec le Rwanda. Mais nous n'avons aucun cadre diplomatique. On signe un accord spécifique et dont l'application pose de problèmes en termes de garantie internationale, en termes de respect, n'est-ce pas, des engagements vis-à-vis des acteurs. J'ai suivi le gouverneur parler de la MONUC, mais la MONUC ne peut pas aller de lui-même, d'elle-même, venir s'imposer. Le gouverneur doit avoir l'honnêteté, et je sais qu'il en a, pour dire qu'on a interdit à la MONUC, n'est-ce pas, d'emprunter l'axe Rutshuru. Il a fallu que la MONUC crie que les ambassadeurs disent qu'il est important, comme garantie internationale, que la MONUC fasse partie de cette opération. Mais sinon, on serait dans une lune de miel rwando-congolaise dans la clandestinité.
François Guillaume.
Je voudrais juste revenir sur l'information selon laquelle la MONUC participerait à ces opérations. Premièrement, il faut quand même être réaliste. Ni l'armée rwandaise, ni les troupes ex-CNDP du FARDC ne vont impliquer la MONUC dans la planification de leurs opérations militaires. C'est bien une chose que l'armée rwandaise ne fait pas, c'est de consulter les Nations Unies sur la façon dont elle mène ses opérations. Quand on voit le niveau de coordination qu'il y a eu au niveau de l'opération conjointe avec l'armée ougandaise, les Ougandais informaient, à ma connaissance, l'armée congolaise de ce qu'ils faisaient après que ces opérations aient été lancées. Donc, cette opération est très largement contrôlée par l'armée rwandaise, par les anciennes troupes du CNDP, et donc le rôle de la MONUC tout simplement paye le prix de son inefficacité, de son incapacité à contrôler et à gérer la crise au mois de novembre et au mois de décembre. Elle est exclue du processus, ce qui bien sûr a des conséquences lourdes. Parce que, si vous voulez, on essaye aujourd'hui d'assurer le minimum, parce que la MONUC a un mandat du Conseil de sécurité, mais dans la réalité opérationnelle, ça va me paraître extrêmement, extrêmement difficile, surtout au vu de l'expérience et de la façon dont les troupes du CNDP, dirigées maintenant par Bosco Ntaganda, et l'armée rwandaise opère généralement dans la région. Donc sur ce point en particulier, je crois que il faut quand même pas trop se satisfaire des déclarations d'intention qui ont été faites. Il y a un vrai problème à régler, un problème non pas qu'il faille donner les détails d'une opération militaire aux médias et mettre toutes les informations sur la place publique,
mais
il faut quand même s'assurer d'un minimum de contingence, de plan de contingence d'organisation pour la protection des civils. On voit tout simplement que l'opération contre LRA n'a mené qu'à des tueries contre les civils. On doit éviter la répétition de ce même scénario. C'est le minimum à obtenir de cette opération conjointe.
Oui, mais est-ce que c'est pas positif c'est la sensibilisation que vient d'annoncer le gouverneur Julien Paluku au niveau de la population, justement pour la rassurer. Est-ce que ça ne suffit pas, François Guillaume? Très rapidement, s'il vous plaît.
Mais écoutez, la sensibilisation, elle est faite par les coups de fusil. Fuit vers Loubero parce que les opérations sont menées. C'est comme tout ça, la sensibilisation qu'il subit. Il est un peu tard pour faire de la sensibilisation. On ne fait pas de la sensibilisation une fois que l'opération militaire a déjà été lancée. On l'a fait avant, on prépare, on coordonne, on organise et on s'assure que les choses seront faites pour minimiser le coût des civils. Donc là, on est en train d'essayer de rattraper le temps, de courir après le train qui est déjà parti.
Merci beaucoup, François Grignon. On va poursuivre cette émission avec les premières réactions des auditeurs. Moïssa nous écrit de Goma. Il pense que le gouvernement congolais, avant d'inviter le Rwanda pour traquer les FDLR, devait rassurer la population sur la durée, l'espace dans lequel va se dérouler cette opération, ce afin d'éviter les suspicions des uns et des autres. Et cela rejoint les préoccupations justement de l'ONG Crisis Group International. Yvon Tiswaka de Mbujima, au Kasaï Oriental, pense que la traque des FDLR n'est pas une solution. D'après lui, les FDLR vont se replier dans des forêts inaccessibles. Ainsi, continue-t-il, la solution passe par une table ronde de réconciliation au Rwanda. Monsieur le gouverneur, vous répondez en quelques secondes à ces auditeurs. Et puis, est-ce que vous confirmez que si les objectifs ne sont pas atteints, vous allez solliciter une prolongation de la présence des troupes rwandaises?
Je voudrais remercier tout cela qui, en fait, sont en train de réagir, mais en considérant que, en fait, nous, les Congolais, nous sommes marqués par le spectre de l'invasion, comme en 96 à 98. Mais la différence actuellement, c'est que ce n'est pas cette fois-ci l'invasion de la RDC. C'est l'invitation du gouvernement congolais. Il y a un principe qui dit que celui qui invite, celui qui met fin à l'invitation. Donc, la première chose. Donc on ne doit pas avoir peur de dire mais comme ils sont entrés, comment ils vont rentrer, quand ils vont rentrer.
Est-ce que vous, vous reprochez cela aux Congolais?
Des deux, moi je crois que la crainte qu'expriment certaines personnes, quand on dit qu'ils vont replier beaucoup plus dans la forêt, c'est une crainte normale. C'est pourquoi, en fait, au niveau du plan, on ne doit pas révéler quelles sont les dispositions contenues dans le plan qui permettent effectivement de gérer toutes ces questions qui avaient été abordées lors de l'élaboration du plan. Je crois que cela reste le secret du plan dans le cadre des opérations qui sont menées actuellement.
Voilà, opération conjointe RDC armée rwandaise au Nord Kivu. Quelle perspective pour le retour de la paix dans les deux Kivu? C'est l'objet du débat dans la deuxième partie de cette émission, mais nous rappelons d'abord nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Quelle perspective pour le retour de la paix dans les deux Kivu une semaine après le lancement des opérations conjointes FRDC armée rwandaise au Nord Kivu? Certaines personnalités dans la province du Nord Kivu ne cachent pas leur optimisme quant à l'aboutissement de cette opération et croient à un retour de la paix dans les deux Kivu. C'est le cas de Abin Chuti Seninga Robert, les députés provinciaux du RCD. Les deux pays, la RDC et le Rwanda, doivent se concentrer maintenant un peu plus sur la sensibilisation des FDLR afin qu'ils rentrent dans leur pays. On écoute Abin Chuti Seninga Robert au téléphone de quel côté?
Dès lors qu'il y a la confiance mutuelle entre les deux chefs de l'État, et donc j'espère qu'il y aura la paix. Je vous informe que hier, j'ai été à Ishasha. Là, l'autorité de l'État est rétablie. C'est grâce à ces opérations que l'autorité de l'État a été rétablie. Il en est de même qu'au niveau des Nundi, en tout cas, les opérations vont mieux, et je pense que ce qui nous pouvons envisager plus, c'est la sensibilisation des éléments stellaires au lieu de faire fuite dans les forêts de la RDC à revenir à la raison et rentrer chez eux. Je peux vous affirmer que la population n'a pas peur de ces opérations, à part les politiques aériennes qui veulent intoxiquer certains gens et que j'espère qu'ils ne les écouteront pas. Je suis toujours sur le terrain, la situation est calme, la population vague à ses occupations, la population est prête à se désolidariser avec les FDLR, et donc il n'y a pas à s'inquiéter.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, je sais que vous êtes optimiste comme Seninga Robert, ce député provincial, mais il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Si les objectifs ne sont pas atteints, est-ce que vous allez solliciter la prolongation de cette opération?
En tout cas, il ne m'appartient pas à moi de pouvoir le faire. Je vous l'ai dit clairement, le plan a été conjointement signé par le ministre des Affaires étrangères, Alexis Thambou Mamba, et Mme Rosemarie Mousseminari, qui est son collègue du Rwanda. Nous avons des structures qui sont habilitées à le faire. De toutes les façons, je suis un planificateur de formation. Oui. Je sais qu'à la fin de l'exécution des plans, il y a toujours une évaluation.
Donc, dans une semaine.
Je n'ai pas déjà prédit oui. Si l'évaluation sera bonne ou mauvaise. Oui. Il faut d'abord qu'on attende l'évaluation être faite pour qu'on définisse les options fondamentales à prendre par rapport aux éléments qu'on aura effectivement trouvés à la suite de l'évaluation.
Merci beaucoup. Merci. Alors, sénateur Jacques Joly, comment vous voyez l'avenir de Kivu à la fin de ces opérations?
Le Kivu a besoin de la paix. D'une paix réelle, pas de paix négociée en catimini, pas de paix dont on ne connaît pas le soubassement. Est-ce que c'est l'accord du 5 décembre signé par le ministre des Affaires étrangères et sa collègue rwandaise, ou l'accord spécifique Tangada, Bosco et le ministre de l'Intérieur Mbuyu sous le dos de Laurent Kunda? C'est tout cela qui nous fait des inquiétudes, qui nous donne des inquiétudes, et nous avons l'impression que nous sommes en train d'assister à une opération de liquidation de notre souveraineté dans le cadre du projet ancien de l'accord de l'Emirat. Je vous ai dit la problématique de la province orientale avec la présence de l'armée ougandaise. Et notre ami Guillaume nous a dit que c'est l'armée ougandaise qui mène les opérations et les phares d'effet sont en position pratiquement d'assistance, même pas de protéger leur propre population.
Donc pour vous, pour qu'il y ait la paix, il faut que les accords soient plus clairs.
Oui, il est important que nous puissions définir le cadre de négociation, qu'on nous dise
Qu'est-ce que nous faisons? Qui fait quoi? Quelles sont les garanties internationales? Nous avions l'Union africaine, nous avions l'ONU. On a tout bazardé pour une opération assez floue, genre mixage. Et après, quand on va demander la preuve, il n'y en aura pas. Donc, je disais que nous sommes dans une opération de liquidation de notre souveraineté dans la province orientale. Cette opération a le même signe que ce qu'on a vu avec la zone d'intérêt commun du côté de l'Angola, et on nous signale la présence de troupes de ces pays amis à Kitona pour faire des opérations contre, n'est-ce pas, leurs rebelles. C'est la même dynamique qu'on a vu à Kaemba où on a renoncé à la souveraineté. Donc nous avons en face, comme je l'ai dit, d'un gouvernement de renoncement, d'un gouvernement d'impuissance, et le gouverneur qui est là assiste lui aussi impuissant à la cette présence. Je comprends qu'il doit justifier, je comprends que la population, nos frères du Nord Kivu, dont ils dirigent dans la paix, mais nous voulons une paix claire et non une paix confuse sur des intérêts dont on ne connaît pas. Peut-être qu'on va dire que nous allons encore partager, après le partage de la souveraineté, on va partager aussi l'espace des richesses et pourquoi pas notre patrimoine foncier comme d'aucuns semblent nous le proposer.
Voilà. Là, vous pensez au président français sans conviction.
Mais tout ça, c'est lié avec des plans dont je ne cite pas le nom. Donc, il faut qu'on fasse attention. Voilà pourquoi il faut respecter les institutions, les cadres de débat, la transparence et la cohérence.
Merci beaucoup, Jacques Joly. Oui, François Grignon, est-ce que vous abordez dans le même sens que le sénateur Joly pour le retour de la paix au Kivu?
Je voudrais quand même, je crois qu'il faut aussi garder aussi un peu de perspective par rapport à ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux mois, on était au bord d'une guerre régionale avec des menaces qui pesaient. Aujourd'hui, on est dans une phase de collaboration dont on peut contester la nature, mais on est dans une phase de collaboration entre le Rwanda et la RDC, qui est un des éléments absolument essentiels de la stabilisation de la région, de la stabilisation des Kivus. Cette traduction en une opération militaire peut être critiquée, contestée, parce qu'elle n'a été pas faite, je dirais, dans le cadre d'une stratégie globale qui inclut la résolution des questions politiques et économiques, ce qui est absolument nécessaire. Néanmoins, on doit quand même saluer, je dirais, le courage politique du président congolais. Ce n'était pas, probablement pas une décision facile, et c'est une décision risquée qui demande du courage politique. Donc, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, c'est quand même le geste de réconciliation est un geste d'homme d'État. Il faut du courage pour le faire. Maintenant, la traduction opérationnelle de ce geste de réconciliation laisse à désirer. Aujourd'hui, elle ne peut pas se limiter à une approche sécuritaire. Elle a besoin de garanties extérieures. L'intégration du CNDP reste, à mon avis, une opération sur laquelle il y a beaucoup de points d'interrogation. Elle a besoin de garanties, elle a besoin de traitement de fond aussi des questions politiques et économiques qui sont à l'origine de la crise du Nord Kivu. La question de la réinstallation des déplacés, du retour des réfugiés, de la gestion de la terre, de l'exploitation des ressources minières, sont des questions qui sont à l'origine de la crise. Ça ne se réglera pas entre le président Kagame et le président Kabila, ça se réglera à travers la mise en place d'un processus politique de construction de la paix véritable au Nord-Kivu. Donc, là-dessus, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail.
Oui.
Cette opération militaire me paraît largement insuffisante parce qu'elle ne s'inscrit pas dans une stratégie globale, mais on est dans une dynamique régionale qui est néanmoins beaucoup plus constructive qu'on était qu'il y a deux mois. On ne peut que s'en satisfaire.
Voilà.
Elle a demandé, je pense, du courage politique. Il faut quand même considérer cet aspect qui est important.
Merci beaucoup, François Grillon. On revient vers vous, monsieur le gouverneur Julien Paloukou. Je rappelle que vous êtes gouverneur du Nord Kivu. Qu'est-ce que vous répondez alors à Jacques Joly qui dit qu'il faut clarifier le cadre de négociation, notamment avec l'implication des partenaires extérieurs, et puis François Grignon qui dit que cette opération devrait s'inscrire dans un processus global?
Oui, moi je crois que je suis l'un des gouverneurs qui a reçu plus de 100 diplomates dans cette province. Et à chaque audience que j'avais avec les diplomates, tout le monde me disait il faut prendre langue avec les Rwandais. Aujourd'hui que nous prenons langue avec les Rwandais, ça suscite des débats. Je suis heureux également que j'ai en face de moi le sénateur Joly, une Joly qui est un élu comme moi, parce que je suis élu au premier degré et au deuxième degré. Et je tiens à préciser que au niveau de la province, j'ai été appelé par l'Assemblée provinciale pour par une question d'actualité pour que je dise exactement qu'est-ce qui se passe. Et moi, je pense aujourd'hui qu'au lieu que nous puissions faire des débats institutionnels sur la voix des hommes, qu'il est normal qu'au niveau du Sénat, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on puisse par une question d'actualité, une question orale, demander à l'autorité compétente de nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est la voie normale au lieu que nous continuions à nous interroger sur des questions qui auraient dû être débattues au sein des institutions. L'Assemblée nationale, le Sénat, sont de droit, ils ont le plein pouvoir d'appeler qui ils veulent pour qu'ils viennent expliquer le contenu de cet accord et comment se font les opérations. Donc je crois que c'est simple et je ne vois pas un seul ministre qui refuserait d'être appelé par le Sénat ou l'Assemblée par rapport à une question aussi importante comme celle-ci, comme je l'ai fait moi, au niveau de l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu. Et je pense qu'au niveau du Nord-Kivu, on a eu à comprendre comment se passent les opérations et quels sont les chemins et les aboutissants.
Oui. Monsieur le gouverneur, évidemment, il nous reste plus beaucoup de temps. Je vous arrête d'abord. On prend Guy Maté qui va donner... Vous allez rebondir, Jacques Joly. Je sais que vous voulez répondre directement à Julien Paloukou. Peut-être que vous pouvez lui répondre très rapidement avant qu'on prenne...
Je voulais simplement féliciter le gouverneur et l'Assemblée provinciale du Kivu pour cet exercice démocratique. Mais ici, chez nous, alors que nous réclamons une session extraordinaire pour justement, ne fût-ce qu'à quelques jours, débattre et clarifier cette question,
à
Kinshasa, je vous ai annoncé qu'un député de la majorité a carrément déchiré la liste, n'est-ce pas, des pétitions de cette session extraordinaire demandée par l'honorable Kiavi au dehors de Kivu. Donc vous vous rendez compte de l'état d'esprit qui gît ici, où on refuse le débat pour, n'est-ce pas, mettre les parlementaires à la recherche d'informations par des moyens non institutionnels, comme vous le dites.
Ouais,
donc, nous regrettons beaucoup l'attitude d'hostilité du gouvernement.
Merci beaucoup. On prend Guy Maté avec les réactions des auditeurs. Bonsoir, Guy.
Bonsoir, Jean-Claude. Charles Kiaola de Lumbashi Katanga voudrait savoir si les Rwandais vont retourner facilement chez eux une fois les opérations conjointes terminées. Coup de chapeau aux forces de coalition congolo-rwandaise, qui pourchassent tous les rebelles qui sont à l'est, sans exception. Et Nazi de Jean Timbissa de Gemena en Équateur. Junior de Goma au Nord Kivu dit ceci, le bilan n'est pas satisfaisant car il devrait se quantifier en termes d'armes et munitions récupérées au FDLR. Jado Malika de Beni au Nord Kivu reconnaît la mission exacte de la coalition. Il demande si traquer les FDLR veut dire les disperser ou les chasser de leur position actuelle, ou carrément les exterminer.
Merci beaucoup, Guy Maté. Évidemment, il y a Robert Baumé, il y a Josaphat Wanondo de Fizio Sud-Kivu. Vous êtes nombreux à nous écrire. Malheureusement, on ne sait pas lire toutes vos réactions. Mais on va permettre quand même en quelques secondes à nos invités d'y répondre. Peut-être avec vous, monsieur le gouverneur, il y a Jado Malika de Beni qui veut connaître la mission exacte de la coalition FARDC armée rwandaise. En quelques secondes.
La mission exacte, en quelques secondes, comme vous l'avez dit, c'est de pouvoir participer à la restauration de la paix dans cette région des Grands Lacs, parce que vous savez qu'il y a des menaces qui pèsent sur la sécurité depuis des dizaines d'années, et si la coalition est présente, c'est pour effectivement que cette coalition puisse participer à la restauration de la paix, une paix qui a toujours manqué aussi bien au Nord Kivu que partout dans la région où les FDLR ont semé désolation et mort.
Voilà, 30 secondes à vous, Jacques Joly, par rapport à cette question.
Je vois, d'ailleurs, c'est une des questions que nous avons posées. Quel est le concept opérationnel de cette manœuvre? Nous ne savons pas, comme dit l'auditeur, est-ce que c'est de détruire les bases des FDLR? Est-ce que c'est de repousser les FDLR dans la forêt? Est-ce que c'est de l'amener les FDLR au Rwanda? Mais tout cela n'est pas clair. Et voilà pourquoi nous sommes à nous poser la question si avec 9 FDLR aujourd'hui, on va arriver à faire, en milieu de temps, à faire partir 6000 FDLR et si c'est pas une opération d'intervention des Rwandais au Congo.
Merci beaucoup. Charles Kayola de Lubumbashi, il veut savoir si les Rwandais vont retourner facilement chez eux une fois les opérations conjointes terminées. François Grignon, 30 secondes. Ou même 20 d'ailleurs.
On n'est plus dans une situation comme on était en 96-98. Je pense que Kigali voudra ramener ses troupes chez elles. Le problème, comme il a été dit par d'autres auditeurs, c'est que pour pouvoir le faire, il faut avoir des objectifs clairs, des résultats qu'on puisse évaluer de façon claire,
oui.
Et aujourd'hui, personne ne sait exactement, concrètement,
merci.
Ce que cette opération
merci
entend beaucoup faire, disperser,
merci.
Traquer, désarmer.
François Guignon, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Alain Gon était à la technique, Claude Tianza à la réalisation. Merci à toute l'équipe de Dialogue en Congolais et à vous tous de nous avoir suivis. Okapi, okapi.